J'ai eu l'occasion de lire un livre que certains ont lu déjà, qui s'appelle La fin du hasard, des frères Bogdanov, Pierre, Guillot, Richard, vous en ont déjà un peu parlé. Je ne vais pas vous parler de ce livre, mais j'avais envie de vous partager quelques petites choses. Et puis, je suis tombé sur ce passage du Deutéronome. Et finalement, je me suis dit, je crois que c'est un passage que je voudrais partager avec mes frères et sœurs ce matin. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles au Deutéronome chapitre 30. Et on va lire les versets 11 à 14. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Le livre du Deutéronome, c'est le livre qui est présenté comme le dernier discours de Moïse, son testament spirituel. Et il n'a pas été écrit par Moïse lui-même, puisqu'il répète à de nombreuses reprises « Moïse a dit, Moïse a fait ». Mais l'auteur use de beaucoup de solennité pour résumer ce qui semble être l'apport majeur de Moïse. Il y a dans le Deutéronome une grande insistance sur la fidélité à la pratique des commandements et on la retrouve là dans notre texte. Évidemment, si l'auteur du Deutéronome ne craint pas de répéter toujours la même chose, c'est parce que le peuple à qui il s'adresse a souvent été un peuple de malentendants. Vous veillez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. Vous marcherez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a prescrit, afin que vous restiez en vie, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Deutéronome 5. Autrement dit, c'est une affaire de vie et de mort. L'expression « afin que tu vives », ça revient souvent dans le livre de Deutéronome et souvent associé aussi « afin que tu sois heureux ». C'est deux choses, vivre, mais pas vivre seulement, c'est vivre heureux. Par exemple, Deutéronome 6, verset 3, « Tu écouteras Israël ». Et tu veilleras à mettre les commandements en pratique, ainsi tu seras heureux, et vous deviendrez très nombreux, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Malheureusement, le peuple avait la nuque raide, comme disait Moïse, à la fin de sa vie. Quand il réfléchissait sur le passé, il pouvait dire, et c'est toujours dans Deutéronome chapitre 9, versets 6 à 7, « Ce n'est pas parce que tu es juste que le Seigneur te donne ce bon pays en possession, car tu es un peuple à la nuque raide. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as irrité le Seigneur ton Dieu dans les déserts. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous avez été en révolte contre le Seigneur. » Alors, on va s'arrêter juste sur cette expression, la nuque raide. Il y a une superbe image qui se cache derrière cette formule, vous la connaissez, parce que Jésus en a parlé aussi. Et il faut avoir l'idée d'un joug, hein, cette pièce de bois qu'on mettait sur, auquel on attelait des bœufs, hein, généralement. Donc, pour les faire travailler ensemble, ils avaient un joug pour tirer leur charge. Et l'expression nuque raide évoque dans un attelage un animal, une bête qui refuse de mettre sa tête sous le joug, qui est une bête rétive. Et on sait, quand il y a une bête rétive dans l'attelage, l'attelage ne fonctionne pas bien. Et donc ce peuple que décrit Moïse, il dit, c'est un peuple anacrède, il ne fonctionne pas bien avec la loi. Ça marche pas bien, ça avance pas, ça s'égare, ça oublie, on est obligé de toujours revenir, donner des coups de fouet. La colère, on a parlé de la colère de Dieu tout à l'heure. L'alliance entre Dieu et son peuple, c'était décrit comme une attache, un joug d'attelage. Et pour recommander l'obéissance à la loi, la tradition juive disait: soumettez votre nuque à son joug et que votre âme reçoive l'instruction. Jérémie, qui reproche au peuple ses manquements à la loi, disait dans le même sens: tu as brisé ton joug. Et on comprend mieux cette phrase de Jésus qui dit: prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11. Et cette phrase de Jésus a peut-être bien ses racines dans le texte de Deutéronome qu'on a lu. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Autrement dit, Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Peut-être ce passage s'adresse-t-il à des croyants découragés, à des gens qui n'y arrivent plus, qui sont coincés en marche arrière, comme dit une chanson de Coldplay. Des gens découragés, des disciples qui se plaignaient à Jésus et qui, en lui demandant, mais qui donc peut être sauvé, Seigneur, quand ils ont entendu Jésus parler au jeune homme riche et le renvoyer, vous vous souvenez, ce jeune homme qui disait accomplir les commandements, mais il avait des grands biens, et Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, et il dit au jeune homme riche, juste après que le jeune homme riche s'en aille, il dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Et on trouve bien là, dans ce texte de Deutéronome, ce que Jésus va dire ensuite, le grand message très positif de la Bible. La loi est à notre portée. Ce que Jésus nous demande, c'est à notre portée. C'est pas au-delà de la mer, c'est pas là-haut dans les cieux, c'est à notre portée. C'est possible. L'humanité est appelée au salut. Et le salut qui consiste à vivre de l'amour et dans l'amour de Dieu et des autres, c'est possible. Et c'est ce message qui est donné pour toute l'humanité, c'est pas une utopie, c'est pas quelque chose où on dira ben, un jour, quand on sera là-haut, on s'aimera tous. Non, c'est un message pour maintenant. C'est un message pour tout de suite, pas un message pour là-haut dans le ciel ou pour au-delà des mers, mais un message pour maintenant. Mais bien sûr, l'expérience aidant, on s'est aperçu tous, si vous êtes sincères, peut-être bah, qu'on n'y arrive pas, quoi. Si vous essayez de le faire, on tombe tout le temps, 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 on tombe. Et les disciples ont bien compris ça. C'est impossible aux hommes. Impossible aux hommes s'ils essaient par leur propre force. Et la leçon est toujours la même et Jésus répond à ses disciples: aux hommes, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Même à un riche de passer par le chat d'une aiguille. Oui, à Dieu, tout est possible, y compris de transformer les nuques raides des hommes. Puisque le peuple de Dieu, qui est décrit là, était incapable de fidélité à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui transformera le cœur de ce peuple. Le Seigneur ton Dieu, Deutéronome chapitre 30, verset 6, le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur pour que tu aimes le Seigneur et que tu vives. On a longtemps espéré que le peuple lui-même atteindrait cette qualité d'adhésion à la loi, à l'alliance, de tout son cœur, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force. Deutéronome, c'est la profession de foi, le Shema Israël. Hein? De Deutéronome chapitre 6, encore Deutéronome. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence. Et les prophètes Jérémie, Ézéchiel, prenant acte, on dit ceci, je déposerai mes directives moi-même au fond de leur cœur, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Jérémie chapitre 31. Tout ça pour dire, avant que vous vous endormiez, que la loi, la morale, ça touche notre intérieur, notre cœur. Je ne sais pas si vous comprenez quand je parle de toucher l'intérieur. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens qui nettoient la coupe à l'extérieur, mais l'intérieur est rempli de rapines, rempli d'ordures, on va dire. C'est comme ça. Il dit, vous nettoyez la coupe à l'extérieur. Alors, est-ce que vous comprenez ce qu'est l'intérieur? L'intérieur. Ben, c'est nos émotions. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Alors on va dire, c'est le cœur. Oui, mais le cœur, bon, c'est quoi le cœur? C'est nos émotions. C'est ce qui fait vos désirs. C'est ce qui fait vos rêves. C'est ce qu'il y a là. C'est ce que vous ressentez. C'est ce qui nous bouleverse. C'est ça le cœur. Qu'est-ce qui vous bouleverse aujourd'hui? Ce qui fait qu'on est des êtres humains, parce on ressent les choses. Des êtres créés pour avoir compassion. On est créé pour ça, créé pour aimer. C'est ce qui fait vraiment que nous sommes vivants. C'est ce qui fait qu'on est heureux quand on ressent. On n'est pas comme cette personne que Marc décrivait, qui croisait les bras, qui suivait pas le troupeau, en tendant le bras, mais qui disait non, c'est pas possible. Je peux pas adhérer à ça. Je peux pas. Je peux pas faire le Heil Hitler. Je croise les bras. Il ressent. C'est d'obéir à cette loi qui est inscrite dans nos cœurs. Ressentir. Sépulcre blanchi, dit Jésus encore aux pharisiens, désignant bien par cette expression qu'ils étaient morts. Ils étaient morts. Même si d'apparence ça ne se voyait pas, toute l'œuvre de Christ nous enseigne le cœur de la loi. Et en fait, la loi n'est qu'un aspect extérieur du voyage que nous faisons sur la terre. Il y a un rabbin qui enseignait un jeune homme et qui dit, ben, l'existence religieuse, c'est comme prendre le train. Il dit, tu es circoncis, tu pratiques le sabbat, tu manges kasher, tu pratiques la dîme. Et tu montes dans le train en partance pour ton salut. Mais dans ce train, tu peux voyager soit sur le toit et risquer de tomber, ou en première classe. C'est quoi la première classe? C'est quoi la première classe? Et il lui répond, moins tu as, plus tu donnes. Moins tu as, plus tu donnes. Ça, c'est la première classe. C'est la différence entre donner sa dîme et puis cette pauvre veuve qui donne ses deux pièces dans le tronc. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est ça. Voyager en première classe. Et nos vies ne dépendent pas des circonstances, mais de ce que nous laissons Dieu faire. Et j'en viens juste à cette idée, la dernière phrase du livre La fin du hasard, c'est un ouvrage qui parle des grands scientifiques et des recherches actuelles, du niveau de recherche, que ce soit en astrophysique ou en mathématiques, qui nous montre que le monde a été créé, il a été créé, et il a été créé même avant le Big Bang. C'est un peu extraordinaire. Mais à la fin de ce livre, il dit, ce qui est écrit n'est pas ce que l'on fait, mais la liberté de le faire. Ce qui est écrit dans vos vies, nos destinées, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est un petit peu ça. C'est pas ce que l'on fait, mais ce qu'on a la liberté de faire. Dieu nous rend libre d'aimer. Dieu nous rend libre de l'aimer lui et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nos vies ne dépendent pas donc des circonstances, mais de ce que nous laissons Dieu en faire de ces circonstances-là. Et c'est bien cette question qui, en définitive, tarabuste ce docteur de la loi qui interroge Jésus en Luc chapitre 10, car le texte nous dit qu'il veut mettre Jésus à l'épreuve et sa question est sincère pourtant. Mais cette question, avant de l'aborder, on va juste, vous connaissez, c'est l'histoire du bon samaritain, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, mais c'est ça qui est extraordinaire dans les Écritures, c'est que elles sont vivantes et elles peuvent se voir, tout dépend des circonstances de la vie dans lesquelles nous sommes, les perspectives changent. Une même histoire peut vous apprendre autre chose sur vous-même, sur ce qui vous entoure. Ce qui est étonnant dans les Écritures, c'est que la fureur de Paul à l'encontre de Jésus n'a jamais été aussi grande que le jour où il lui a donné sa vie. Ne sais pas si vous vous rendez compte. Paul était parti avec des lettres pour tuer les chrétiens ce jour-là. Furax contre Jésus et son œuvre, et c'est ce jour-là qui lui donne sa vie. Le philosophe C.S. Lewis, célèbre qu'on cite souvent, qui a écrit les Contes de Narnia, et lui-même, dans sa quête, il était contre le christianisme, mais c'était émotionnellement contre le christianisme. Et c'est là où il a donné sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a porté le débat non à la raison, mais au cœur. Et c'est là où je voudrais vous inviter tout doucement à aller au cœur, à l'émotion. C'était émotionnellement impossible. Il avait une rancœur contre le christianisme, probablement. Et Paul avait une rancœur contre Jésus, contre les chrétiens. Et cette rancœur, elle n'était pas dans le raisonnement, elle était dans son cœur. Et c'est à son cœur que Jésus s'est adressé. C'est par les émotions que nous ressentons que nous pouvons sentir la vie. Ça, c'est la réalité. Un docteur de la loi interroge Jésus, Luc chapitre 10. Et tel est pris qu'il croyait prendre. Il voulait le mettre à l'épreuve. Je vais juste vous rappeler le texte. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. S'il espérait mettre Jésus dans l'embarras, c'est lui qui s'est retrouvé dans l'embarras, et méfiez-vous lorsque vous questionnez Jésus. Mais n'hésitez pas à le questionner. N'hésitez pas à le questionner. Parce que c'est en le questionnant qu'on apprend. Lui a appris en questionnant Jésus. En fait, la question c'est jusqu'où faut-il aimer? Jusqu'où? S'il est attiré par Jésus, c'est qu'il y a quelque chose dans son cœur. Et il va vers lui pour poser cette question. Jusqu'où faut-il aimer? Si on veut rester tranquille dans la vie, faut pas se poser de questions. Mais si on veut avancer dans l'existence, faut oser poser des questions. Et poser des questions, ça, c'est jamais très agréable. Se remettre en question, c'est jamais très agréable. Ça veut dire qu'on n'était pas bien là où on était. Ça veut dire qu'on se dit, il y a d'autres choses, il y a quelque chose à faire. Donc, il faut poser les questions. Il faut se poser les questions. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses. Bien que la question de se maître de la loi n'était pas très bonne, il l'a posée quand même. Jésus ne va pas y répondre directement. Mais il faut se poser les questions, surtout si ce sont des questions importantes. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est une question importante. Ou plus compromettante encore, la question suivante. Et qui est mon prochain? Quand quelqu'un pose des questions comme ça, vous imaginez un petit peu quelqu'un qui vous pose à vous des questions comme ça. Bon, qui suis-je pour me poser des questions comme ça? Mais on ne peut pas rester là à dire, c'est étudié pour, comme dirait Fernand Reynaud à son fils. Non, on prend du temps, on s'assied, on écoute, on se dit, bon, t'en es où dans ta vie maintenant? Qu'est-ce que tu fais dans l'existence? Qu'est-ce qui t'amène à te poser une telle question? Jésus ne peut désirer que conduire son interlocuteur jusqu'au plus intime du cœur de Dieu lui-même. Et ce cheminement de Jésus va se situer dans un désert, sur une route bien connue des gens de Jérusalem, la route qui descend de Jérusalem à Jéricho. Il y a là une trentaine de kilomètres. C'est une route en plein désert, une route dans des gorges de montagnes. Ça descend sur 1600 mètres jusqu'à la mer morte. Et ce récit d'attentat, cette histoire en fait d'un homme tombé aux mains des brigands qui l'ont dépouillé et puis laissé pour mort, c'est une histoire tout à fait vraisemblable pour les gens de Jérusalem qui écoutaient ça. Ça devait arriver relativement fréquemment. C'était une route dangereuse où on n'y allait pas tout seul, on partait en groupe, généralement en convoi. Et donc l'homme est donc tombé aux mains des brigands qui l'ont dépouillé, laissé pour mort. Et à son malheur physique et moral s'ajoute en plus une exclusion d'ordre religieux. C'est-à-dire que cet homme, il a été souillé. Parce que non seulement il se fait tabasser, mais comme il s'est fait tabasser par des gens impurs, par des gens, des malfaisants, lui est impur en plus. Donc on ne peut pas le toucher. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le Lévite et le maître de la loi sont passés à côté. Peut-être que c'est une raison, ou peut-être qu'ils n'avaient pas envie de perdre du temps, envie de prendre des risques dans l'existence. C'est parfois des raisons qui nous empêchent de faire des choses à laquelle nous sommes appelés, des choses qui sont écrites dans notre destinée, si je puis dire, dans le chemin que Dieu a préparé d'avance pour nous. C'est une liberté. On le fait ou on ne le fait pas. Mais ça a été préparé pour nous. C'est là, sur notre chemin. Il est intéressant de noter que cette présentation éminemment sympathique du Samaritain faite par Jésus, ça suit c'est au chapitre 10, et si vous lisez Luc chapitre 9, vous voyez qu'ils veulent traverser un village samaritain, et puis les Samaritains, ils ne veulent pas laisser entrer Jésus et ses disciples. Et ils sont obligés de contourner la Samarie. Donc d'un côté, les Samaritains sont décrits comme des gens, au chapitre 9, qui ne veulent pas accepter Jésus, et puis au chapitre 10, il décrit un bon Samaritain. Jésus se refuse catégoriquement à étiqueter les gens, même s'il a eu des mauvaises expériences avec eux parfois. J'ai entendu quelqu'un prêcher sur cette parabole à Madagascar, et je vous en ai déjà parlé, je me souviens, il s'appelait Touvou, et il était bouleversé, c'était un dimanche matin, et cette histoire lui était arrivée la veille. En allant au marché, il va sur... C'est très pauvre Madagascar, hein, c'est très pauvre. Alors les gens, il y a beaucoup de gens qui sont habillés en guenilles. Hein. Et il voit un homme dans le ruisseau, là, gisant. Et puis ben, il se dit, voilà, c'est encore un gars qui s'est enivré. Et puis, donc il passe à côté. Et il avance sur son chemin. Et là, quelques mètres plus tard, il y a une petite fille qui est assise sur le trottoir toute seule. Et puis, il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, j'attends mon papa. Il vient d'avoir un malaise, il est là. Son père venait d'avoir un malaise et tout le monde passait à côté en disant, il est ivre. Et lui était passé à côté. Il dit, moi, je suis responsable d'église. Et il dit, je passe à côté. Et lui est venue cette parabole du bon samaritain. Et combien de personnes ai-je croisé sur ma route comme ça, en me disant, je ne parle pas des gens qui gisent par terre, mais des gens qui sont dans le questionnement et dans la douleur. Et puis qui étaient là, et ce n'était pas eux qui étaient sur ma route, c'était moi qui étais sur la leur. Mais voilà, j'ai échappé à ma destinée. J'étais libre. Je suis libre. Libre de le faire ou de ne pas le faire. La scène au bord de la route que Jésus présente dit en image ce que Jésus a manifesté toute sa vie, en guérissant le jour du sabbat, par exemple, en se penchant sur des lépreux, en accueillant des pécheurs, en citant plusieurs fois la parole du prophète Osée, « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. » Osée chapitre 6. La connaissance de Dieu, parlons-en. Quand Jésus avait posé la question, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Que lis-tu ? » Et le docteur de la loi répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. » C'est la seule chose qui compte. Et on le savait déjà en Israël, c'est la seule chose qui compte. Aime ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est la fidélité à ce double amour. C'est la seule chose qui compte. Je me souviens d'Hubert qui ont tergiversé sur des questions doctrinales et Hubert restait très silencieux pendant 2 heures. Et c'était le plus ancien d'entre nous et nous discutions. Et puis quelqu'un dit à Hubert, mais Hubert, t'es le plus ancien d'entre nous et tu n'as rien dit. Il dit, je sais pas pourquoi on discute de tout ça. Il dit, on a déjà du mal à aimer son prochain comme soi-même et aimer son Dieu. Il dit, si déjà on arrivait à faire ça, parole de sagesse, et tout le monde s'est tu. La seule chose qui compte, c'est ça. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est Jean qui écrit ça dans sa première épître, au chapitre 4. Et encore, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. C'est toujours dans le même chapitre 4, au verset 7. Le fin mot de cette connaissance que nous révèle la Bible, Ancien et Nouveau Testament, c'est que Dieu est miséricordieux. Alors c'est quoi? Littéralement, ça veut dire ses entrailles vibrent. C'est ça, miséricordieux. Ses entrailles vibrent. Il est rempli d'émotions. Plein d'émotions. Or, nous dit le récit, quand le Samaritain vit l'homme blessé, il fut saisi de pitié. En grec, ému aux entrailles. C'est comme ça que c'est écrit. Et ce n'est pas par hasard si Luc emploie la même expression pour dire l'émotion à chaque fois que ressent Jésus. À la porte du village, il y a cette veuve qui est là. Elle a perdu son fils. Mais c'est pas qu'elle est, elle est veuve. Elle a perdu son fils, mais c'est son fils unique. Ça veut dire pour elle qu'elle sera mendiante toute sa vie. Elle a perdu son unique, son fils, dans lequel elle avait mis tout son espoir. Pour lui, certes, mais aussi pour sa propre vie. Cette femme, elle n'a plus rien. Plus rien. Jésus la voit, il sait dans quel état elle est, et il fut ému de compassion. Ému de compassion. Ému aux entrailles. Luc emploiera aussi la même expression pour décrire le père qui voit son fils arriver, le fils prodigue. Ému aux entrailles. Ému de compassion. C'est ça. Il faut se laisser toucher au fond de nos cœurs. Ça veut dire qu'il faut que cette loi qui est là, il faut qu'elle rentre dans nos cœurs. Il faut qu'elle nous émeuve et qu'elle nous bouleverse. Alors je reviens à la parabole. Ce voyageur miséricordieux n'est pourtant aux yeux des Juifs qu'un Samaritain. C'est-à-dire quelqu'un le moins recommandable pour un Juif. Car les Samaritains et Juifs, c'était normalement des ennemis. Les Juifs méprisaient les Samaritains, qu'ils considéraient comme des hérétiques, et les Samaritains méprisaient les Juifs parce qu'ils avaient détruit leur sanctuaire sur le mont Garizim en 129 avant Jésus-Christ. Le mépris, c'était un mépris ancestral. J'entendais quelqu'un qui disait, un historien, c'était très intéressant, qui disait « L'histoire, c'est l'ennemi de la paix. » Comment ça? Oui, parce que si on revient toujours à ce qui s'est passé en arrière, entre les nations, on trouvera toujours inimitié. L'histoire, c'est l'ennemi de la paix. Et dans les relations, c'est ça aussi. On peut trouver, ouais, mais il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Ou alors, j'aime pas les gens de cette race-là. Parce que voilà, il y a eu ces problèmes-là. Non, j'aime pas. C'est, ça nourrit le racisme. Ça, c'est pas possible. Pas possible quand on a cette loi écrite dans nos cœurs. Le mépris, à vrai dire, c'est détestable. Détestable. Les Juifs disaient des Samaritains, ce peuple stupide qui demeure à Sichem. Et c'est cet homme qui est méprisé, qui est déclaré par Jésus le plus proche de Dieu à ce moment-là. Celui qui vit le cœur de Dieu. C'est pas ceux qui servent au temple, c'est pas le prêtre et le lévite qui sont passés à côté sans s'arrêter, mais c'est celui-là. Cette émotion jusqu'aux entrailles, c'est le contraire de la dureté du cœur. Et quand on parle la loi, la morale, quand elle est extérieure et qu'elle n'est pas écrite dans le cœur des gens. Alors Jésus va donc proposer un renversement de perspective pour nous. À la question « qui est mon prochain ?», il ne répond pas. Et comme vous pouvez s'y attendre, en traçant un cercle autour, voilà, ça c'est les limites. Hein. Comme on dit, il ne va pas donner une définition, parce que définition, c'est finition, c'est quelque chose de fini. Non. Le prochain, bah, c'est quelles sont tes limites à toi? C'est quoi les limites? Et c'est ça, c'est la réponse de Jésus. C'est quoi? C'est qui est ton prochain? C'est quoi tes limites? À toi de décider. si tu acceptes de te faire proche de l'autre. Pourquoi le Samaritain nous a-t-il donné en exemple? La réponse est toute simple, parce qu'il est capable d'être saisi de pitié. Va, et toi aussi fais de même, sous-entendu, et ce n'est pas facultatif, hein. Fais ainsi et tu auras la vie. Et c'est avec ça que nous laisse Jésus. C'est cela, porter sa croix. C'est être ému aux entrailles. Porter sa croix, c'est ça. Hein. Parce qu'être ému aux entrailles, ce n'est pas une position confortable. Ce n'est pas quelque chose qui est « Oh, c'est chouette, je suis ému aux entrailles ». Non, c'est quelque chose... Quand on est ému aux entrailles, on se dit « Non, je ne peux pas laisser comme ça, c'est pas possible ». Tout à coup, ça devient votre fardeau. L'autre devient votre fardeau. Si vous croyez que le bon samaritain était content de trouver ce type-là au milieu de sur sa route, ça lui a coûté des sous, du temps, des inquiétudes, de prendre des risques. Mais c'est ça, être ému aux entrailles. C'est ça ce que nous demande Jésus. Prendre des risques. Des risques avec son argent, son temps, ses émotions. Se sentir peut-être rejeté à un moment donné. C'est ça, porter sa croix. Que celui qui veut suivre Jésus, qui porte sa croix, qu'il me suive. Hein. À une époque où Jésus n'était pas encore mort sur la croix, donc c'était pas porter sa croix et aller jusqu'au calvaire. Non, porter sa croix, ça voulait dire quelque chose d'autre. C'est bien être ému aux entrailles pour les autres et donner sa vie pour les autres s'il le fallait, comme Jésus l'a fait. La perspective, en fait, elle est extraordinaire parce que notre capacité d'inventer, là, elle est sollicitée par Jésus. C'est pas, il ne nous enferme pas, il dit, mais faites comme vous voulez. Aimez, puis faites comme vous voulez. C'est... Si les dimensions du cercle de notre prochain dépendent de notre bon vouloir, si les considérations de catégorie sociale et convenances doivent céder le pas à la pitié, ce qui semble, c'est la leçon de cette parabole, hein. Pitié, non dans le sens de condescendance, mais dans le sens de compassion, de souffrir avec. Alors, il ne nous reste plus qu'à inventer l'amour sans frontières. Et c'est ça l'œuvre de l'Église. Tout est possible. Et la perspective, elle est extraordinaire parce que notre aptitude à vivre le royaume de Dieu, pas seulement vivre dans le royaume de Dieu, mais vivre le royaume de Dieu, le faire exister ce royaume, c'est notre capacité à laisser agir la compassion dans nos cœurs et qu'elle se traduise par des actes concrets. Ça, c'est la réalité. Et je vais terminer là. Parfois, je rentre du travail, mais complètement insatisfait. Vous savez, vous rentrez du travail et vous dites, pourtant je vois des gens, j'ai les moyens d'exercer en étant que médecin, d'avoir de la compassion pour des gens, mais je rentre du travail et je dis, si je serais, je suis pas très content de moi aujourd'hui. Et puis je fais a posteriori, je revois le temps que j'aurais dû passer avec quelqu'un, des questions, la question que je n'ai pas posée. Je savais qu'il fallait la poser, mais je n'avais pas le temps. Et là, ça devient difficile. Le temps, c'est si précieux, c'est mon temps. Le mien ou celui de Dieu. Pour ceux qui voudraient se laisser bouleverser, voici le conseil d'un vieil évangéliste à un novice. Au début, tu vas croire que tu peux tout faire. Puis... Au début, tu vas croire que tu peux tout faire, puis tu seras tenté de penser que tu ne peux rien faire. Mais ne te laisse pas décourager, tu apprendras que tu peux faire ce que Dieu a préparé pour toi. N'avons-nous pas été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions? Alors, si tu ne sais pas où commencer, ben, réfléchis pas avec ta tête, mais laisse parler ton cœur. Laisse-toi émouvoir et il te conduira. Et ce qu'il te commandera ne sera pas au-dessus de tes forces. Ce ne sera pas dans le ciel ou de l'autre côté de la mer, mais ce sera à ta portée. C'est possible. peux le faire. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cet exemple du Samaritain, Seigneur. Merci pour l'exemple de ta vie, de ton cœur de Dieu qui s'est laissé émouvoir par notre pauvre humanité, Seigneur. Pardon. Seigneur, c'est ta vie, nous sommes là pour ça, nous voulons vivre de ta vie, nous voulons avoir cette paix, cette joie qui était la tienne, cet amour, Seigneur, que nous ne comprenons pas. Mais c'est ça que nous voulons, Seigneur, ce matin. C'est ça que nous sommes venus chercher. Transforme nos cœurs, Seigneur, que cette loi soit inscrite dans nos cœurs. Amour pour toi, amour pour tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.